Le débat du jour, Loïc Bussière.
C'est une visite comme un message. Non, Paris n'oublie pas les victimes des récents ouragans qui ont frappé les Antilles françaises. La France n'oublie pas les Outre-mer. C'est demain, samedi, qu'Édouard Philippe atterrira sur l'île de la Martinique. La Martinique avant la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 3 jours de déplacement entouré de 5 de ses ministres et secrétaires d'État pour se projeter dans le temps de la reconstruction, explique-t-on à Matignon. Un déplacement qui intervient avec en arrière-plan les assises des Outre-mer qui viennent de s'ouvrir. 7 mois de réflexion pour se projeter vers l'avenir des dom-tom, des départements et territoires qui s'estiment souvent, l'actualité vient nous le rappeler, moins bien traités que la métropole. Vie trop chère, infrastructure en souffrance. Pourtant, les dépenses de l'État à destination des ultramarins se comptent en milliards d'euros. Alors, les Outre-mer sont-ils les oubliés de la République? C'est le sujet du débat de ce vendredi. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans les 20 minutes à venir avec nos invités. Bonsoir Nathalie Fanfan.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère de Paris, membre du comité des Outre-mer, les Républicains. Avec nous également en duplex de la Guadeloupe, Olivier Servat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche de Guadeloupe, président également de la délégation Outre-mer. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un bref détour. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps, par l'actualité récente, celle de la Guyane. C'était la semaine dernière, écoutez.
Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Et donc, je ne suis pas venu faire des promesses. Ce temps-là est fini. L'État a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues.
Voilà, c'était la semaine dernière, le président donc en visite en Guyane, le président qui n'est pas un Père Noël. Les propos s'appliquent à la situation en Guyane, ils peuvent largement être repris à hauteur des départements et des territoires outre-mer tout entier. Je vais me tourner tout d'abord vers Olivier Servat. Monsieur Servat, on vient d'entendre donc ces propos d'Emmanuel Macron, propos largement commentés depuis. Édouard Philippe sera dimanche chez vous en Guadeloupe. Est-ce que vous attendez de lui qu'il arrive avec une hotte pleine, pour reprendre la métaphore présidentielle?
Bon, tout d'abord, le président a dit une évidence, hein, il n'est pas le Père Noël, de toute évidence, et que les Guyanais ne sont pas des enfants. Je aimerais revenir sur votre lancement en disant que l'Outre-mer est aidé à coups de milliards. Ben, ça fait 20 milliards, en fait, en tout, globalement. Et il faut savoir, parce qu'il faut tordre le cou à une idée préconçue selon laquelle les Outre-mer seraient grassement dotés. Eh bien non, puisque l'Outre-mer représente 3,9% du budget total de l'État, celui qui vous le dit, rapporteur spécial au budget de l'Outre-mer, alors que les populations ultramarines représentent 4,3% de la population hexagonale. Ça veut dire donc que les ultramarins sont en moyenne moins bien lotis que la moyenne des hexagonaux. Ça, c'est la première réalité que je vous invite à vraiment avoir en tête et à marteler pour ne pas avoir l'impression de dire que les Outre-mer seraient vraiment coûteuses pour l'Hexagone. C'est faux.
Quel n'était pas notre propos, Olivier Servat?
Oui, je préfère le rappeler parce que c'est une sorte d'idée préconçue à laquelle il faudrait tordre le cou. Donc, Édouard Philippe arrivera en Guadeloupe avec nécessairement des réponses, puisque les Outre-mer font partie de la France. La première, c'est sur l'arrêté de catastrophe naturelle qui avait été lancé rapidement, mais où il manquait un certain nombre d'éléments. Le travail est fait et nous attendons des annonces fortes sur ce point-là. Ensuite, sur l'eau, nous avons une grosse problématique sur l'eau, sur les réseaux d'eau, et nous avons indiqué au cabinet du ministre qu'il serait bon d'avoir des réponses aussi de ce point de vue-là. Et puis plus généralement, sur les assises de l'Outre-mer, j'imagine qu'on y reviendra, il faut aussi là des perspectives claires.
Nathalie Fanfan, une réaction justement au propos à l'instant d'Olivier Servat.
Olivier Servat connaît de toute façon largement mieux que moi les problématiques purement guadeloupéennes, donc je ne vais pas contredire ce qu'il vient de dire. Sur la phrase du président de la République, je ne suis pas le Père Noël, effectivement elle a été largement commentée. Moi je vois dans cette phrase une pique à ses prédécesseurs qui sont tous venus faire des promesses qui finalement n'ont engagé que ceux qui les ont écoutés, parce que peu d'entre elles ont été en fait réalisées, parce que sinon vous n'auriez pas de manifestations récurrentes en Outre-mer. Donc Je crois que nous avons là un président qui a plutôt choisi la voie du pragmatisme et qui a très certainement compris que plutôt que de faire des promesses et de saupoudrer les outre-mer à coups de milliards, mais finalement pas prendre de vraies décisions structurelles pour permettre aux outre-mer de mieux se développer, parce qu'on peut pas dire que les outre-mer ne se développent pas, il y a quand même de l'excellence en outre-mer, mais pas assez, et puis je pense que le cadre juridique empêche certaines évolutions. Donc je pense qu'il a compris ça et a à cœur de faire évoluer les choses, de faire changer les choses.
Alors, on va pas passer toute l'émission hein, sur ces propos d'Emmanuel Macron. Cela dit, la question qui se pose hein, au-delà justement de la petite phrase, elle est double. C'est celle tout d'abord de la verticalité des décisions qui concerne les dom-tom, et puis celle aussi de la dépendance à l'argent venu de métropole.
Mmh. Exactement. Le rôle des élus en général est plutôt de poser un cadre pour permettre, je dirais, au secteur économique de se développer, d'évoluer, de créer de la valeur ajoutée, de créer de l'emploi, etc. Si le cadre qui est posé n'est pas adapté au territoire, ça ne peut pas fonctionner. Jusqu'à présent, la France a pris le parti effectivement de créer cette dépendance financière pour des raisons... voilà, XY historique, mais pour le coup, ça n'a pas permis à ces territoires d'avoir ne serait-ce que un niveau de formation correct, parce que vous savez que les étudiants sont souvent obligés de partir hein, pour venir étudier ici ou ailleurs, hein, parce qu'ils vont aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Une fois qu'ils sont partis, difficile de revenir. Pourquoi ? Deux choses. Un, ils ont accès à de l'emploi ici ou à l'étranger. Mais quand ils reviennent, les emplois sont déjà pris par d'autres aussi. Donc c'est vraiment une problématique qui est très... C'est la quadrature du cercle. Ils sont obligés de partir pour étudier, mais quand ils reviennent, il n'y a plus d'emploi. Vous voyez, ça, c'est déjà une première problématique. Il y a beaucoup d'autres problématiques, on parlera de sécurité, enfin toutes les problématiques régaliennes, mais en termes de développement économique, il y a toutes les taxes qui existent et qui font qu'un produit importé, une fois arrivé là-bas, il est beaucoup plus cher qu'ici, et donc mécaniquement, eh ben, il faut effectivement soutenir, si vous voulez, je dirais, un niveau de vie pour permettre aux consommateurs en fait, d'acheter des produits importés. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue.
Alors pour continuer à parler d'argent, et je vais me tourner de nouveau vers Olivier Servat qui est en duplex de la Guadeloupe. Je le rappelle, on évoquait tout à l'heure les sommes justement dévolues à l'outre-mer dans le budget de l'État, des sommes dont d'ailleurs la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, explique qu'elles vont augmenter en 2018. Est-ce que la problématique, ce n'est pas plus, c'est pas moins les chiffres, on en a parlé à l'instant avec vous, Olivier Servat, que la façon dont cet argent est dépensé?
Oui, les deux questions méritent d'être posées. C'est vrai que pour les autres départements hexagonaux, quand il y a des transferts de fonds de l'État vers ces départements, on parle de solidarité. Et dès qu'il s'agit des outre-mer, on a tendance à parler de dépendance. Là aussi, c'est un élément de vocabulaire, à mon avis, auquel on doit être attentif. Mais pour répondre à votre question, oui, un chiffre simple. La croissance hexagonale a été, l'année dernière, de 1,7%. En plus, la croissance, par exemple en Guadeloupe, est de moins 0,2%. Ça veut dire qu'il y a une régression. En clair, dans des départements où le niveau de vie est déjà bien en retard, en général 30% de moins, eh bien, la vitesse de croissance de ces départements est inférieure à celle de l'Hexagone. Donc, nécessairement, il faut à la fois avoir des projets concrets dans le cadre des assises des Outre-mer. C'est vrai, nous avions une volonté très simple, hein, que les assises ne s'arrêtent pas au grand livre bleu Outre-mer de la ministre de l'Outre-mer. Et nous avons été rassurés lors de ce voyage en Guyane où j'accompagnais le président, parce qu'il a dit trois choses importantes. Il a dit que à l'issue de ce grand livre bleu Outre-mer va déboucher ce livre sur soit des évolutions, pourquoi pas constitutionnelles, des évolutions législatives, des évolutions réglementaires et des évolutions financières. Oui, il faut des grands projets structurants sur l'eau, sur les énergies renouvelables, sur les déchets, sur les transports. Et pour cela, il faut des hommes et des femmes en coproduction et il faut effectivement des transferts financiers. Ça, c'est clair, parce que sans investissement, formation brute de capital fixe, comme on dit, eh bien, il ne pourra pas y avoir de croissance, en effet. Alors, les hommes sont là, et je rejoins tout à fait Nathalie Fanfan, qui dit bien qu'on a Outre-mer, des capacités, je l'ai dit aussi, son président, et il l'a redit dans son discours, je l'ai fortement apprécié. On a des hommes et des femmes issus des territoires ultramarins qui ont des diplômes et qui ont fait l'effort d'aller se former ailleurs, souvent en Hexagone ou en Europe ou dans le monde. Mais pour retourner, les conditions d'accès aux emplois, notamment dans l'administration, la haute administration, sont compliquées et souvent l'aéropage administratif n'est pas, je dirais, aux couleurs arc-en-ciel des Outre-mer. Donc là aussi, il a dit qu'il faudrait faire un effort pour permettre au top management de retourner pour que les ultramarins puissent s'identifier à leurs élites.
Vous écoutez le débat du jour sur RFI, il est 15h50 à Pointe-à-Pitre. Et nous, le débat du jour avec Nathalie Fanfan, donc Olivier Servat, Nathalie Fanfan, conseillère de Paris, je le rappelle, membre du comité Outre-mer Les Républicains, Olivier Servat, député de Guadeloupe, qui est en duplex avec nous, justement, des studios de Guadeloupe. Première, je voudrais qu'on revienne sur le déplacement du Premier ministre qui arrive demain en Martinique. Matignon fait savoir avant même qu'il n'atterrisse à Fort-de-France que, je cite, on sort à peine de la phase d'urgence et qu'il faut maintenant se projeter dans le temps de la reconstruction. Alors, ce sont des propos qui s'appliquent au territoire frappé par les ouragans Irma et Maria, mais est-ce qu'on n'est pas constamment, Nathalie Fanfan, dans une situation d'urgence en ce qui concerne les départements et les régions d'outre-mer ?
Je ne sais pas s'il faut parler de situation d'urgence pour tous les territoires, mais en tout cas, si je prends, par exemple, le Premier ministre va en Martinique demain, il ouvre les assises de l'Outre-mer et il commence par l'atelier tourisme. Le tourisme, c'est un secteur majeur en Martinique. Il y a une vraie problématique qui va être la suivante. Nous sommes en Martinique dans un environnement extrêmement concurrentiel. Les îles environnantes, nos voisins de Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie, etc., sont extrêmement compétitifs, notamment sur un point très particulier, c'est le coût du travail. Donc il va falloir effectivement que le gouvernement puisse prendre des mesures pour aider à abaisser en fait le coût du travail en Martinique, mais ça va être la même chose pour la Guadeloupe, pour que ces îles puissent être plus compétitives au regard de ce que proposent les autres îles. Ça, c'est en termes, je dirais, purement humains. Par ailleurs, il va falloir effectivement faire des investissements et le président a annoncé que la Caisse des dépôts et consignations jouerait le jeu, certainement pour effectivement que l'on puisse construire des infrastructures touristiques. C'est très bien que la Caisse des dépôts joue le jeu, mais il faut des investisseurs. Qui seront les investisseurs qui vont construire des hôtels et autres structures touristiques en Martinique, en Guadeloupe, etc. Et surtout, des infrastructures aux normes internationales, parce que jusqu'à présent, elles sont sur des normes françaises, mais si nous voulons accueillir une clientèle beaucoup plus internationale, ce qui est la volonté des responsables du tourisme, qui sont vraiment très engagé sur ce travail, il va falloir vraiment de gros investisseurs, une réflexion menée aussi bien avec le gouvernement que tous les professionnels du tourisme, et ça c'est un énorme travail.
Olivier Servat, je faisais le distinguo à l'instant entre, tout au moins c'est Matignon d'ailleurs, qu'il fait la phase d'urgence et celle de la reconstruction. Est-ce que la problématique des Outre-mer, ce n'est pas justement qu'on est dans un chantier permanent ?
Oui, c'est vrai que le chantier est énorme et les lieux d'amélioration sont aussi importants. Mais c'est vrai qu'il faut se poser. Je crois que le moment des Assises des Outre-mer est un moment important pour pouvoir réfléchir tous ensemble, coproduire l'État, mais aussi la société civile, les collectivités locales, pour arrêter le chemin. Et ensuite, grâce à cette loi égalité réelle Outre-mer qui a été votée le 28 février 2017, on pourra aller vers ce qu'on appelle les plans de convergence pour que, à l'origine, 5, 10, 15 ans sur les éléments structurants. Le tourisme, Nathalie Fanfan a raison, il y a une vraie question. Le CICE qui doit disparaître, il y a des propositions de la FIDOM pour augmenter le taux du CICE à enveloppe constante. Pourquoi pas ? Il faut réfléchir sur cela. Mais il y a d'autres secteurs aussi importants. L'agrotransformation, le secteur, je l'ai dit, des transports, de l'eau pour les éléments structurants. Eh bien, on doit pouvoir se poser pour planifier les choses tranquillement et mesurer chaque année que, eh bien, il y ait cette convergence de la croissance économique, culturelle, sociale, environnementale entre les différents départements d'outre-mer qui d'ailleurs partent à des niveaux différents. Mayotte, ce n'est pas pareil que La Réunion, par exemple. Et donc, il s'agit tranquillement, territoire par territoire, avec des projets concrets, de pouvoir se dire, eh bien voilà, nous allons avec les acteurs qui existent, hein, pourquoi pas les privés, mais beaucoup le public aussi, aussi les institutions financières telles que la Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d'investissement, pouvoir arriver à sortir des grands projets de terre pour pouvoir améliorer le sort des concitoyens ultramarins.
Alors quand je vous écoute Olivier Servat, quand j'écoute également les propos de Nathalie Fanfan, je me dis que c'est 7 mois que doivent durer justement les assises des Outre-mer et qui doivent déboucher justement sur des solutions, sur en tout cas qui doivent identifier les problèmes et proposer des solutions. Je me dis que finalement, est-ce que les diagnostics ne sont pas déjà posés? Est-ce que ces 7 mois vont être constructifs, pour reprendre un terme politique en vogue, Nathalie Fanfan?
Ils seront constructifs, je le leur souhaite. Moi, ma question, c'est est-ce que 7 mois, ça sera suffisant? Parce qu'il y a un travail tellement colossal sur l'ensemble des Outre-mer, une réflexion à mener. Est-ce que 7 mois, ce sera suffisant pour justement amener les Outre-mer à rattraper ce retard? Mais c'est déjà un début, donc ne soyons pas trop sévères là-dessus. Mais effectivement, il y a déjà des problèmes qui sont identifiés depuis des années. Donc maintenant, c'est une décision politique pour dire, voilà, on a identifié tel problème, voilà les solutions que l'on peut apporter. Alors, le président en a énuméré un certain nombre la semaine dernière lorsqu'il était en Guyane, on ne va pas les énumérer à nouveau ici. Je suppose bien que le Premier ministre va en annoncer d'autres lors de son passage, mais c'est pas tout, il y en aura de toute façon d'autres. Et vous savez, cette émulation, il y aura encore des idées qui vont sortir. Je prends l'exemple de l'économie circulaire, qui est un sujet assez majeur ici. Bon, ça va être un gros sujet sur l'outre-mer, parce que vous savez que les outre-mer ont pour obligation d'être autonomes en termes d'énergie d'ici 2030, mais c'est pas tout. Il va falloir, justement, au regard de la COP21, par exemple, traiter tout le recyclage, le traitement des déchets, etc. L'économie circulaire, c'est un secteur économique colossal qui arrive et qui sera très certainement générateur d'emplois en Outre-mer, mais il va falloir intégrer ça, et pour l'instant je n'ai pas encore entendu parler d'économie circulaire en Outre-mer.
Alors je vous soumets cette phrase, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville? Cette phrase, elle est connue, elle est signée François Mitterrand, elle date de 1985, le président de la République à l'époque assistait à un lancement d'Ariane 3 depuis Kourou. La semaine dernière, Emmanuel Macron affirmait qu'il fallait changer de méthode, hein, que les méthodes employées jusqu'à maintenant n'avaient pas permis aux Outre-mer de réussir. Qu'est-ce qui permet de croire aujourd'hui que ce constat sera plus suivi des faits que celui fait 30 ans plus tôt par François Mitterrand? Olivier Servat, rapidement.
C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans le nouveau monde. Emmanuel Macron est un homme très pragmatique. C'est un homme qui n'a pas d'a priori sur les Outre-mer, qu'il connaissait très peu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'imprègne de ces territoires le plus longuement possible. Et par exemple, pour la fusée, il s'agit de changer la réglementation pour permettre à ce qu'il y ait une taxe qui revienne aux collectivités locales, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et c'est vrai, par exemple, sur les énergies renouvelables, on a déjà des solutions. L'éolien offshore, qui permettrait de pouvoir subvenir à 300 000 habitants en Guadeloupe qu'avec 25 éoliennes. Donc il y a des projets qui sont là. Il faut maintenant la volonté des hommes et l'énergie financière.
Nathalie Fanfan, est-ce que vous croyez justement à la version du nouveau monde selon Macron, telle que décrite par Olivier Servat, appliquée tout au moins aux Outre-mer?
Écoutez, on a envie d'y croire. Si j'étais un peu sévère envers le feu le président Mitterrand, que n'a-t-il agi après avoir fait ce constat? On n'en serait pas là aujourd'hui. S'il avait pris les bonnes décisions, il fait les bons investissements. Donc maintenant, je crois que le temps est venu, comme le dit Olivier Servat, d'avoir de nouvelles méthodes. Et la co-construction, je suppose, ça n'a pas encore été, je dirais, mis en œuvre. Je veux croire, j'en suis convaincue, que les élus auront à cœur de s'investir justement dans ce travail de réflexion et de reconstruction pour permettre justement qu'on ne soit plus dans ces bidonvilles autour de Kourou.
Eh bien, on y sera justement attentif à ce constat que vous posez, Nathalie Fanfan. Vous êtes conseillère de Paris, je le rappelle, membre du comité des Outre-mer Les Républicains. Olivier Servat était avec nous également. Merci à lui. Vous êtes député La République en marche de Guadeloupe, président de la délégation Outre-mer. Merci.